Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Acte 1er. Terrasse d'un rempart, dominée par une terrasse et dominant d'autres remparts. Scène 1.
La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre.
Je te tiens à Paris, Andromaque.
Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le recevoir, on va bien lui envelopper sa petite Hélène et on la lui rendra.
On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène. Et la guerre de Troie aura lieu.
Oui, si Hector n'était pas là. Mais il arrive, Cassandre, il arrive. Tu entends assez ses trompettes. En 7 minutes, il entre dans la ville victorieux. Je pense qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà 3 mois, il m'a juré que cette guerre était la dernière.
C'était la dernière. La suivante l'attend.
Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que l'effroyable?
Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de 2 bêtises. Celle des hommes et celle des éléments.
Pourquoi la guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris.
Oh, il s'agit bien d'eux.
Il s'agit de quoi?
Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Tu as vu le destin s'intéresser à des phrases négatives?
Je ne sais pas ce qu'est le destin.
Je vais te le dire. C'est simplement la forme accélérée du temps. C'est épouvantable.
Garde à vous, mauvaise troupe! Vous écoutez les yeux ont des oreilles sur Transistor, bande de bleus, et ça va barder pour vos matricules. Général Caroline à l'antenne, qui reprend le commandement de ce bataillon après le putsch orchestré à mon égard à l'épisode précédent. Les officiers responsables ont été traduits en conseil de guerre et seront fusillés à l'aube. Engagez-vous, rengagez-vous dans la glorieuse armée de Transistor, sous peine de vous prendre mon pied bien profond dans le... Quoi? Vous êtes sûr? Ah bon. Messieurs, dames, on m'informe à l'instant que le plan d'attaque a été changé. Le thème de cet 11e épisode serait le salon des déserteurs. Faites l'amour, pas la guerre, couronne de fleurs, colombes, légumes bio, tout ça, tout ça. N'empêche que les objecteurs de conscience, c'est beaucoup moins radiophonique que le vocabulaire militaire. Pour sûr, Boris Vian et cette merveilleuse virgule d'ouverture, le déserteur était pour le moins frappant. Mais moi, je suis censée faire quoi, allumer un bédo? Bref. À l'instant, sur Transistor, l'incipit de « La guerre de Troie n'aura pas lieu » de Jean Giraudoux, où Camille joue les Cassandres face à mon Andromaque incrédule. Ainsi le veut sa malédiction. Et tout cela à cause d'un berger et d'une poire. La pièce datant de 1935, je vous laisse deviner quelle guerre vient après la der des der. Thème étrangement d'actualité en ce printemps 2014, alors que l'Union soviétique, pardon, la Russie, tend son long bras vers l'Europe de l'Est et que le reste du monde se ronge des phalanges. Mais parlons d'une actualité plus réjouissante. Comme vous le savez déjà, j'espère, aura lieu le 12 avril 2014 à l'ENS d'Ulm, la 3e édition de la Journée de la Radio, où se rendra notre fine équipe de littéraires pour un épisode spécial et en live de l'IO. Camille et Willem ne seront donc fusillés qu'après cette date. Thème, la radio en guerre, parce que la guerre c'est sexy. En tout cas, si vous êtes un de ces fous d'historiens, et bienvenue d'ailleurs à notre invitée du jour, Marie, respo-com de Transistor et co-présentatrice dans Spectateur. Donc vraiment quelqu'un de bien en dehors de son appartenance à cette section bizarre de gens qui va prendre des dates. Blah. Aujourd'hui, c'est donc un teaser pour la journée de la radio, l'occasion de creuser un peu sur le thème très fertile de littérature et guerre, pour ne pas être trop frustrés par les limites de l'émission le jour J, de laisser leur place aux textes qui ont presque été sélectionnés pour le live, et l'occasion pour moi de faire un script proprement irrévérencieux. Pas sûr d'avoir beaucoup de courage en live et face à un parterre d'historiens, invités et ulmites, mais je ferai de mon mieux. Et si ce salon des refusés est devenu le salon des déserteurs, est-ce vraiment si surprenant? Bon, par contre, les bonbons pacifiques, c'est emmerdant comme la pluie, donc j'ai rempli notre mascotte Figaro, le crâne en papier mâché, de têtes brûlées, goût coca. Des bonbons qui créent la 3e guerre mondiale dans votre bouche, c'est pas pour les poules mouillées. Donc, je récapitule. Le 12 avril, la guerre sera sexy. Aujourd'hui, la guerre n'est ni sexy ni glorieuse. Pour citer le dramaturge Luigi Pirandello, il est plus facile d'être héros qu'honnête homme. Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête, il faut l'être toujours. Voilà pourquoi ma question du jour porte sur les petits combats du quotidien. Aujourd'hui, on se tape sur l'épaule et on se félicite. Racontez-moi une petite victoire pacifiste contre vous-même, contre la loi de Murphy ou contre les emmerdeurs, pardon, les êtres humains agaçants qu'on côtoie au jour le jour. Un petit rien qui rend fier et qui éclaire la journée. Pour vous donner un exemple, tous les lundis, je me fais violence pour aller à mon cours de karaté. J'aime bien le karaté, c'est cool et tout. Mais il y a quelque chose en moi qui tend à l'inaction la plus totale. Donc je suis obligée de me battre. Et à chaque fois que je sors du karaté en sueur, avec des courbatures et tout ça, je suis fière de moi. Will,
Alors moi, c'est tous les jours que je suis une petite victoire, c'est-à-dire que tous les matins, j'arrive à me lever. Je pense que ma nature profonde est celle d'un paresseux. Et donc, c'est-à-dire que pour moi, se lever avant midi, c'est trop tôt. Et comme en général, toujours, je suis obligée de me lever avant midi, c'est une victoire tous les jours de me lever.
Amen. Camille ?
Une victoire qui est forcément très habituelle, mais c'est quand tu es confronté à un membre, par exemple, de l'administration, de n'importe quelle administration, qui ne veut pas, et que tu arrives à déjouer sa stratégie de destruction de ton projet par une extrême politesse. Et je trouve que c'est une manière assez pacifiste de régler les conflits, même s'il faut s'écraser un peu et perdre beaucoup de respect pour soi-même.
C'est bien. Marie ?
Alors moi, ma petite victoire, c'est d'arriver à dompter le mobilier qu'il y a chez moi, et en particulier d'arriver à dompter mon four micro-ondes, qui a la merveilleuse fonction de faire four. Et si on arrive à l'apprivoiser, à le caresser dans le bon sens du poil, à régler le temps de cuisson correctement, on peut faire des putains de petites tartes aux pralines, et ça, c'est un bonheur absolu.
Romain ?
Alors moi, c'est une victoire civique. Donc le printemps est revenu, j'ai repris mon vélo et je m'efforce tous les jours de défendre vaillamment la piste cyclable des bords du Rhône contre les agresseurs. Et en l'occurrence, hier, deux cheftaines de centre aéré comptent leurs enfants sur la piste cyclable. Imaginez deux troupeaux d'enfants habillés de gilets jaunes fluo comptés par leur
scandale.
Responsable. Scandale. Donc je me suis mis à crier « Mais c'est une piste cyclable ici, il faut aller les compter là-bas et tout !» Et je me suis fait insulter.
En première ligne de la résistance, nous lançons l'assaut avec la féministe Monique Wittig et cet extrait de Virgile Non, réécriture féministe radicale de la Divine Comédie de Dante. L'enfer est le San Francisco moderne où souffle un vent trop fort. Les limbes, les bars lesbiens, le paradis, un lieu à inventer, à créer aux dépens de la langue de l'ennemi. Le personnage principal, Wittig, a pour guide Manastabal et dans le chapitre 30, elles arrivent à la foire d'empoigne. Dans cette partie de l'enfer, les adversaires, c'est-à-dire les mâles sexistes, écartèlent des âmes damnées, c'est-à-dire des femmes soumises dans la violence la plus extrême. Wittig ne peut rester de marbre et ainsi commence la guerre des sexes. Alors, c'est sûr que dans le pacifisme, ça cadre pas trop, puisque Wittig est armé d'un pistolet laser. Mais bon, lutte contre l'ordre établi, l'injustice, tout ça. Et puis zut, c'est moi le chef, c'est moi qui dis ce qui est dans le sujet. Et c'est Willem qui pousse les portes de cet enfer hostile au mal, comme quoi c'est pas parce qu'on est pacifiste qu'on manque de courage.
Un rayon laser est supérieur en efficacité à une épée, mais aussi à un revolver, à un fusil et même à une mitraillette. Dans ce cas précis, il me permet de les toucher un à un sans atteindre leur victime, et à une vitesse telle que la salle n'a pas le temps de réagir. Il est vrai que la colère me donne des ailes, et que la vitesse et l'imprévisibilité de mes mouvements empêchent que je devienne une cible. Ils sont pétrifiés par la terreur, et pas un ne songe à me tirer dessus. Qu'avec mon rayon laser je fasse figure d'ange exterminateur au jugement dernier est de peu de conséquences ici, car si je méfie des symboles, je crois à la lettre, et en Junon, j'aplatis tout ce qu'il y a d'adversaires en une minute ou deux, battant ainsi un record de prouesse dans ce genre de récit. Et comme ma tâche est en train de s'achever, une grande jubilation me vient, et j'entame un éloge à la gloire de la technologie moderne, qui donne un tel pouvoir de feu à une personne contre beaucoup d'autres. Manastabal, mon guide, interrompant mon panégyrique, me montre les objets du sauvetage. La majorité est en piteux état. Quelques-unes ont la carotide tranchée d'un coup de rasoir. Certaines ont perdu toutes leurs dents. À d'autres, les membres pendent, inertes. Il y en a qui sont évanouis. Je regrette en tout cas de n'avoir pas pris mes boules caisses pour atténuer le son des gémissements. Si je pouvais choisir, je me contenterais d'écouter les imprécations qui galvanisent, car, pour les autres bruits, ils coupent les jambes et mènent au bord de la défaillance musculaire. Manastabal, mon guide, organise les secours avec celles qui sont sorties indemnes de la foire d'empoigne. Il faut tout d'abord trier les vivantes et leur porter secours. Des cadavres, on ne disposera qu'ensuite. Malgré le tumulte ambiant, j'arrête une passante pour lui demander ce qu'il en est de la foire d'empoigne, où le parfum fétide du sang remplace l'odeur de fleurs d'oranger des fouasses, telle que je me la rappelle d'anciennes foires.
Je l'aime mourir, elle a dû faire toutes les guerres, pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie, et l'amour aussi.
Merci Will d'avoir ouvert le feu avec un texte aussi insolite que d'habitude. En virgule, Francis Cabrel l'aime à mourir. Même si dans le cas de Monique Wittig, la cause du décès serait probablement pas un cœur brisé, plutôt un coup de pistolet laser dans la tête. Pardon, c'est l'âge de tirer sur les féministes. Et il faut bien dire que la guerre est un monde machiste. Notre marche forcée s'éloigne à présent des mythes classiques, mais encore pour venir se heurter au mur d'une cité assiégée. Et si, par un soir d'hiver, un voyageur ne faisait pas du Italo Calvino, mais débarquait dans Sarajevo dévasté par 20 mois de siège. Dans son roman « État de siège », Juan Guiotisolo ressuscite le spectre des horreurs commises au Kosovo, une guerre européenne pas si lointaine et sans gloire aucune. Voici la description de Sarajevo, traduite par Aline Schulman, lue par Camille.
Le plastique translucide tendu sur les vitres le coupait du monde extérieur. Il s'approcha et découvrit le trou. En y appliquant un œil, il pouvait voir tout l'espace qui s'étendait de l'avenue des Francs-Tireurs jusqu'aux immeubles criblés d'obus de l'ancienne artère commerçante. La lumière, bien qu'atténuée par la brume, dévoilait peu à peu le visage torturé de la ville. Il resta là, l'œil écarquillé, comme si le reste de son corps ne comptait plus, observant le champ visuel qui s'offrait à lui à travers le Judas avec l'avidité d'un condamné à mort qui boit ses derniers instants à pleine gorgée. Adouci par les rigueurs de l'hiver, le paysage s'imposait à lui avec la violence abrupte d'un rêve, tourmenté, brumeux, irréel, moignons et blessures recouverts d'un vaste linceul miséricordieux. Détresse, solitude, nudité, saisissant panorama de ruines. Squelettes d'immeubles, voitures démantelées, tramways calcinés, kiosques aux armatures fondues, béances, ferrailles, résidus pathétiques des ravages du feu. La neige, des flocons de neige par milliers, fendait l'air de ses rafales dansantes comme pour dissimuler sous tant d'innocence l'énormité du crime. Tapis charitable offert aux victimes ou camouflage, complice de l'agresseur. Toute la longueur de l'avenue habillée de neige, circulation inexistante, quelques silhouettes fantomatiques et fuyantes, et les blindés, blancs eux aussi, de la force internationale de médiation. Son regard lui renvoyait sa propre immatérialité, blancheur et dévastation. À l'abri des édifices grisâtres et austères de l'époque autrichienne, évoluaient des personnages transis, un passant à bout de force poussait une charrette à bras. Un vieil homme semblait pointer un doigt accusateur sur les assiégeants des collines, immobile, comme la statue du commandeur.
Merci Camille. Si vous remarquez une ressemblance avec le Xenakis passé dans notre deuxième épisode, il a effectivement influencé l'œuvre de Max Richter. Le titre de cet opus était bien sûr Sarajevo. Avançons dans le temps, et je le crains dans une veine tout aussi déprimante. Dans un futur indéterminé, l'Océanie, l'Eurasie et l'Asie du Sud-Est, se livre ce qui est probablement la guerre de science-fiction la plus ennuyeuse de toute l'histoire littéraire. Bienvenue dans 1984, le fameux roman d'anticipation de George Orwell, où la guerre perpétuelle joue un rôle clé dans le contrôle absolu que Big Brother exerce sur la population. Les actes de rébellion de Winston Smith, membre du parti, ont escalé de l'achat d'un carnet à une relation sexuelle clandestine et enfin à une prise de contact avec le mystérieux O'Brien qui lui a remis le livre interdit écrit par Goldstein. En voici la fin du chapitre 3, donc du livre interdit, intitulé « La guerre, c'est la paix ». Paradoxe traduit par Amélie Audiberti et lu par moi-même. La guerre donc, si nous la jugeons sur le modèle des guerres antérieures, est une simple imposture. Elle ressemble aux batailles entre certains ruminants, dont les cornes sont plantées à un angle tel qu'ils sont incapables de se blesser l'un l'autre. Mais, bien qu'irréelle, elle n'en est pas sans signification. Elle dévore le surplus de produits de consommation et elle aide à préserver l'atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée. Ainsi qu'on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu'il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et par conséquent de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres, et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, et l'objet de la guerre n'est pas de faire ou d'empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intacte la structure de la société. Le mot « guerre » lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. L'effet aurait été exactement le même si les trois super-États, au lieu de se battre l'un contre l'autre, s'entendaient pour vivre dans une paix perpétuelle, chacun inviolé à l'intérieur de ses frontières. Dans ce cas, en effet, chacun serait encore un univers clos, libéré à jamais de l'influence assoupissante du danger extérieur. Une paix qui serait vraiment permanente serait exactement comme une guerre permanente. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel, et la signification profonde du slogan du parti. La guerre, c'est la paix. À l'instant, The Cranberries accuse les zombies responsables des guerres et massacres, et notamment des Pâques sanglantes de 1916. Bien sûr, ce qui vaut pour l'Irlande vaut aussi pour les masses abruties de conformité d'Orwell et d'autres conflits encore. Bon, le but, c'est pas non plus de vous faire déprimer dans la boue de l'indignité tout au long de l'émission. Donc un petit coup de fierté patriotique pour un célèbre lyonnais, Antoine de Saint-Exupéry. Dans Pilote de guerre, d'abord publié aux États-Unis puis lu sous le manteau malgré la censure allemande, il raconte une mission effectuée dans le ciel du nord de la France avec son bloc MB-174, l'occasion de réfléchir à la guerre et à l'homme. Camille est aux commandes.
Nous opposons à l'ennemi un homme contre trois, un avion contre 10 ou 20, et depuis Dunkerque, un tank contre 100. Nous n'avons pas le loisir de méditer sur le passé. Nous assistons au présent. Le présent est tel. Aucun sacrifice, jamais, nulle part, n'est susceptible de ralentir l'avance allemande. Aussi règne-t-il du sommet à la base des hiérarchies civiles et militaires, du plombier au ministre, du soldat au général, une sorte de mauvaise conscience qui ne sait ni n'ose se formuler. Le sacrifice perd toute grandeur s'il n'est plus qu'une parodie ou un suicide. Il est beau de se sacrifier. Quelques-uns meurent pour que les autres soient sauvés. On fait la part du feu dans l'incendie. On lutte, jusqu'à la mort, dans le camp retranché, pour donner leur temps aux sauveteurs. Oui, mais le feu, quoi qu'on fasse, prendra toutes les parts. Mais il n'est point de camp où se retrancher. Mais il n'est point à espérer de sauveteurs. Et ceux pour lesquels on combat, pour lesquels on prétend combattre, il semble que, tout simplement, on provoque leur assassinat. Car l'avion, qui écrase les villes à l'arrière, a changé la guerre. J'entendrai des étrangers reprocher plus tard à la France les quelques ponts qui n'auront pas sauté, les quelques villages qui n'auront pas brûlé, et les hommes qui ne seront pas morts. Mais c'est le contraire. C'est exactement le contraire qui me frappe si fort. C'est notre immense bonne volonté à nous boucher les yeux et les oreilles. C'est notre lutte désespérée contre l'évidence. Malgré que rien ne puisse servir à rien, nous faisons sauter les ponts quand même pour jouer le jeu. Nous brûlons de vrais villages pour jouer le jeu. C'est pour jouer le jeu que nos hommes meurent. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
Merci Camille, tu as donc pris cette poussée patriotique et hop, tu as fait s'écraser directement l'avion dans les profondeurs de la déprime. Pour être honnête, le message anti-guerre de Some Nights du groupe Fun est beaucoup plus clair dans le clip que dans les paroles un poil cafouilleuses. Mais bon, un peu d'acapella épique, ça devrait vous gonfler l'âme, comme dirait notre ami Kundera. Autre guerre, autre temps, autre style. Mais l'ennemi reste boche, même si en 1870, les Allemands étaient encore prussiens. Après nous avoir menacés avec du Kant, notre invitée historienne Marie a choisi la nouvelle « Boule de suif » de Maupassant pour faire briller ses talents de lectrice. Deuxième revenant de notre épisode sur l'épouvante, bon retour parmi nous Guy. Et en plus, c'est Céline qui pite, donc le texte fera sa propre introduction. Moins de boulot pour moi, ils sont vachement utiles ces invités. Bêtise à part, l'antenne est à toi, Marie.
Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude, et tombant de fatigue, sitôt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques. Les vengeurs de la défaite. Les citoyens de la tombe. Les partageurs de la mort. Passaient à leur tour, avec des airs de bandits. Leur chef, ancien commerçant, en drap ou en graines, ex-marchand, de suif ou de savon, guerriers de circonstance, nommés officiers, pour leurs écus, ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelles et de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutaient plans de campagne et prétendaient soutenir seuls la France agonisante sur leurs épaules de fanfarons. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on. La garde nationale qui, depuis 2 mois, faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles, étaient rentrés dans ses foyers. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine pour gagner Pont-Audemer par Saint-Sever et Bourrachard. Et, marchant après tous, le général, désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses loques disparates, et perdu lui-même dans la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre et désastreusement battu malgré sa bravoure légendaire, s'en allait à pied entre deux officiers d'ordonnance. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi.
Merci Marie. Et c'était Russians de Sting, que tu choisis toi-même en virgule, parce que, et je cite, Russians, c'est jamais que Prussians amputé de sa première lettre, certes. Enfin, quitte à brasser les guerres, la guerre froide a aussi droit de citation. Ça ferait un granité de guerre. Non, imaginez plutôt que je dis quelque chose d'intelligent et de subtil, c'est le contexte international actuel.
Adieu, vieille Europe, que le diable t'emporte. Adieu, vieux pays.
Il y a des mots qu'on lit sans les voir, et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Pour ceux qui ne se sont jamais baladés sur la mezzanine, là où il y a les canapés super confortables en cuir noir, il y a un mémorial avec le nom de soldats morts pour la France. Je vais vous lire les noms de ceux de la promotion de 14 qui ont été envoyés à la guerre juste après. Antérion Élie, Bâtard François, Bernardon Philippe, Espinasse Barthélémy, Extrate Antoine, Georges Auguste, Guillet Joseph, Rabot Étienne et Tubet Félix. Toujours éducation civique, mais un petit peu moins en rapport avec la guerre. Imaginons, vous avez une très mauvaise journée, vous avez été convoqué dans le bureau de Monsieur Bordas.
Pauvre de nous.
Ouais, pauvre de vous. Si jamais vous êtes bien déprimé, jetez un regard à gauche sur le mur. Il y a un très vieux panneau. Celui-là, il est marqué « Aux élèves des écoles, il est défendu, petit 1, de cracher à terre, petit 2, de mouiller ses doigts dans sa bouche pour tourner les pages des livres et des cahiers, petit 3, d'introduire dans son oreille le bout d'un porte-plume ou d'un crayon, petit 4, d'essuyer les ardoises en crachant dessus ou en y portant directement la langue, petit 5, de tenir dans sa bouche les porte-plumes, les crayons, les pièces de monnaie, etc. » Et pour finir, donc vous aviez déjà eu des citations de Jean-Claude Van Damme, je pense qu'il était grand temps de donner quelques Chuck Norris facts à la radio. Donc, c'est pas du meilleur goût. Chuck Norris ne s'est jamais rendu à l'école. Chuck Norris ne se rend jamais. Chuck Norris mange ses oranges tout ronds. Chuck Norris ne fait pas de quartier. Une petite blague de geek. Chuck Norris a été conçu en mode sans échec. Et la dernière, désolé aux vétérans. La guerre du Golfe a commencé quand Chuck Norris a raté le 18e trou. Chers auditeurs, si vous commencez à penser qu'à notre offensive antimilitariste manque son texte le plus célèbre et le plus évident, vous avez raison. Voyage au bout de la nuit, premier roman de Louis-Ferdinand Céline, fait l'effet d'une bombe à sa parution en 1932. Dans une langue parlée et expressive, matinée d'argot, il exprime l'absurdité de la guerre révélée par sa propre participation à la Der des Der. Hostile à toute forme d'héroïsme, le protagoniste médecin, Ferdinand Bardamu, nous fait l'apologie de la lâcheté. Les opinions politiques de Céline sont plus que discutables, mais on ne peut nier que sa plume a du chien. Camille, tu es promue capitaine pour le temps de la discussion, use sagement de ton pouvoir, je n'ai pas complètement exclu votre exécution, bande de révolutionnaires.
Notons qu'au début de la monstrueuse entreprise, c'est-à-dire au mois d'août, jusqu'en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de route, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés. Mais à partir d'octobre, ce fut bien fini, ces petites accalmies. La grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d'obus et de balles. Bientôt, on serait en plein orage, et ce qu'on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi, et on ne pourrait plus voir qu'elle, sa propre mort. C'est difficile d'arriver à l'essentiel. Même en ce qui concerne la guerre, la fantaisie résiste longtemps. On dénichait dans la nuit, ça et là, des quarts d'heure, qui ressemblaient assez à l'adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables où tout était bénin. Où rien au fond ne tirait à conséquence, où s'accomplissaient tant d'autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. un velours vivant, ce temps de paix. Mais bientôt, les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour trouver le petit rabiot de sommeil dans le noir. Elle arrivait aux lignes d'avant-garde la nourriture, honteusement rampante et lourde, en long cortège boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d'avoine, de riz et de gendarmes, et de pinards aussi. À pied, les traînards derrière la forge, et le pain, et des prisonniers à nous, dès leurs aussi, en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l'étrier des gendarmes, certains à fusiller deux mains, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi, ceux-là, leur ration de ce thon si difficile à digérer, ils n'en auraient pas le temps, en attendant que le convoi reparte sur le rebord de la route, et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux, qu'on disait être un espion et qui n'en savait rien. Nous non plus. Alors après cette description assez vivante de Céline, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces différentes peintures de la guerre ou de la ville en état de guerre qu'on a vu dans ces différents livres, et comment est-ce qu'on peut représenter la guerre pour la présenter comme dégoûtante et rebutante ? Comment ne pas la glorifier quand on la dépeint dans un roman ? Caroline ?
Donc moi, ce qui m'a marqué en comparant Boule de Suif et État de siège, c'est vraiment l'accent qui est mis sur l'inaction, l'attente. Le fait qu'il y a rien qui se passe, hein, on voit juste les débris de la guerre, les trucs calcinés, les gens qui ont peur. Et comme il n'y a pas d'action, comme il n'y a pas d'armée en marche, des attaques, tout ça, ça donne vraiment cette impression que c'est quelque chose qui est subi. Et du coup, ce n'est pas glorieux du tout, si on ne peut pas agir.
Même dans Vitig, il y a un côté aussi pas glorieux parce que, en fait, dans les premiers chapitres, elle essaie de résoudre le conflit de façon, enfin, par la parole justement. Et c'est que, comme sa parole ne trouve aucun crédit parce qu'à chaque fois, bah, on leur renvoie son statut de femme, que du coup, elle est obligée de prendre l'arme des hommes, c'est-à-dire l'arme en tant que telle, pour justement répondre sur le terrain masculin, on va dire. Donc il y a aussi le fait que c'est pas glorieux parce qu'on ne la considère pas comme un être pensant et qui peut avoir sa propre volonté, mais qu'il faut devenir un peu une sorte de bête sanguinaire pour se faire comprendre.
Et puis la peinture des corps mutilés qu'il y a de ces femmes qui sont à moitié égorgées, c'est pas quelque chose qui... C'est plutôt ce qui se passe une fois qu'on a quitté le champ de bataille et quand on ramasse les corps. Et...
J'avais lu que Wittig avait fait une action aux hommes féministes où ils avaient déposé une gerbe de fleurs à la femme du soldat inconnu.
Oui, oui. Tout le travail de Wittig, c'est un travail sur les pronoms, en fait, parce que pour elle, le langage français est genré, c'est-à-dire que le masculin est neutre, et donc, par exemple, quand on dit « il pleut », on dit « il pleut ». Et qu'un jeu qui parlerait au masculin, ce sera toujours un jeu plus neutre qu'un jeu qui parle au féminin. La guerre, pour elle, c'est une guerre vraiment dans le langage, pour essayer dans ce langage qui pourrait être justement l'outil de la réconciliation, où en fait, c'est aussi un outil de domination masculine, et donc c'est là-dedans qu'elle essaie de créer justement cette espèce de paradis où les pronoms ne sont pas des armes, quoi.
Mais la guerre, elle l'amène, alors que dans les autres textes qu'on a lus, même si on a Céline et Saint-Exupéry, c'est quand même deux textes qui sont des récits de gens qui ont fait la guerre, qui ont combattu. Mais on a un peu l'impression qu'on est dans les coulisses et qu'on assiste à... C'est des gens qui sont passifs et qui sont pas en train de... Qui sont pas du tout des résistants, finalement. Donc on a vraiment l'impression que la guerre a perdu son contenu et tout son sens.
Et déjà, c'est vrai qu'assez souvent, on n'a pas vraiment de... Enfin, dans les textes qu'on a lus, pas de description de bataille en elle-même, puisque au fond, c'est pas tellement intéressant. Et d'abord, en particulier, quand Céline ou Saint-Exupéry, des gens qui ont fait la guerre, on n'a vraiment pas le temps de penser à écrire, ou même simplement de penser quand on est dans le cœur de la bataille. Et plus comme s'il fallait parler de l'avant, de l'après. Donc l'avant, quand on attend, quand c'est absolument interminable et atroce, je pense... J'avais pensé, par exemple, prendre un extrait du Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Mais justement, c'est toute l'histoire du roman, c'est qu'il n'y a pas de guerre. On attend cette foutue, fichue guerre qui ne vient absolument jamais.
Qui n'aura pas lieu.
et qui a lieu à la fin, qui est provoquée. Alors c'est ça, c'est horrible. On en vient à provoquer la guerre tellement on l'attend et on la désire presque.
J'aime bien le dialogue du coup entre nous, Cassandre et Andromaque, c'est pourquoi est-ce que la guerre aurait lieu ? En soi, elle n'a pas de raison d'avoir lieu. Comme ils disent, enfin, Paris, Célène, on s'en fiche, tout ça, c'est juste des excuses. Et d'ailleurs, dans la pièce, elle a presque pas lieu, à part cette dernière scène où...
Le poète troyen qui est tué par un troyen et qui accuse les Grecs de l'avoir tué, donc c'est ça aussi, c'est de provoquer la guerre tellement finalement elle est en quelque sorte attendue, quoi.
Mais dès que t'as une histoire qui est racontée du point de vue du personnage, ça va pas nécessairement arriver, enfin ça aurait pu être différent pour eux, sauf que ça l'est pas.
Même quand le personnage est dedans, par exemple dans le livre de Stendhal, où le personnage est au milieu de la guerre et complètement perdu, finalement, la guerre, c'est toujours quelque chose qui est vu après, en quelque sorte. Enfin, elle est attendue avant, elle est constatée après, mais c'est vrai qu'au moment même, on ne sait pas vraiment dire qu'elle a lieu, tellement c'est un chaos, quoi.
On a Fabrice qui traverse Waterloo et qui ne comprend pas qu'il a affaire à l'événement majeur de l'épopée napoléonienne et qui, finalement, dans toute la description, se situe autour de la du champ de bataille. Donc on est avec les cantinières, on est en périphérie de tout ce qui se passe. À un moment, on aperçoit Napoléon au loin, on voit une des généraux qui fuit, mais on voit jamais le cœur de la bataille. Et je trouve que dans tous les textes qu'on a, c'est un peu ce qui se passe. On a Céline qui nous raconte la vie du soldat qui ne veut pas s'impliquer, la vie dans les tranchées, cette espèce de désengagement personnel. On a Saint-Exupéry qui nous dit que le sacrifice est vain. On a la débâcle prussienne. On a cette espèce de discussion de deux témoins qui sont Cassandre et Andromaque avant la guerre. Et Gauthier Solo, justement, ce qui est assez intéressant, tout l'incipit se déroule autour de cet œil, donc cet œil qu'il a collé à la vitre, qui sépare ce tout petit trou de serrure presque, qu'on découvre le paysage qui est complètement détruit. Et là encore, on est au cœur de l'action. Et en même temps, il arrive après que la destruction ait eu lieu. Il est extérieur à la scène. Donc c'est cette description forcément qui vient de l'extérieur. Ça peut pas être un combattant ou quelqu'un qui est impliqué dans le combat.
Puisqu'on n'a pas encore parlé d'Orwell, ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman, la guerre est tellement extérieure à la vie des gens qu'en fait, elle pourrait très bien être quelque chose qui a été inventé par le gouvernement. Cette guerre, elle pourrait très bien ne pas avoir lieu du tout, effectivement.
Ouais, j'aime bien cette idée de guerre comme brèche, comme non-événement, quelque chose de complètement absurde. Et peut-être que c'est pour ça, au fond, qu'on écrit dessus, qu'on l'attend, qu'on fait le compte-rendu une fois qu'elle est passée, qu'on essaie justement d'en faire un événement et éventuellement de le faire en la glorifiant. Je pense qu'on deviendrait fou simplement si on se mettait à considérer la guerre comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un non-événement, et considérer qu'on ne l'a pas vraiment vécu.
Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos compagnons.
Le sale gosse de la chanson française pour qui rien n'était sacré et surtout pas l'hymne national. À l'instant sur Transistor, aux armes, etc. Où Gainsbourg démonte la Marseillaise avec flegme et rythme de reggae. Et dans ce nuage de fumée acre, notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Mais si ces lectures aromatisées à la colombe vous ont semblé manquer de mordant, ou bien vous ont infecté de stress post-traumatique, vous avez heureusement tout le loisir de fourrer le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Émission et playlist composées de concerts, invités incluses, dans une belle démonstration d'esprit de corps. Voilà, donc esprit, corps, vêtements, t-shirt. Donc sélection du jour de Robin. Un t-shirt d'un beau vert pomme, qui est un hommage à la légende de Zelda. Donc on voit le bouclier avec la triforce et les espèces d'ailes. Le cœur au-dessus qui représente les vies, des joyaux, une potion.
Non, c'est une bombe.
Une bombe, pardon, excusez-moi. Je n'ai jamais joué à Zelda. Et donc la devise qui est marquée comme sur un blason. It's dangerous to go alone. C'est dangereux d'y aller seul. À la guerre, pour libérer Zelda, enfin quelque chose comme ça. Donc Robin, un grand merci pour ta pugnacité à l'enregistrement. Je travaille mon vocabulaire pour ne pas trop me ridiculiser à Ulm, vous avez remarqué. Et merci également à Marie pour ses lumières d'historienne. Le thème de la prochaine émission en podcast sera la déprime, pour lutter contre la vague de bourgeons, fleurettes et rayons de soleil qui envahit le pays. Mais entre-temps viendra l'événement de l'année. N'oubliez pas de nous écouter le 12 avril, en fin d'après-midi, soit en direct sur le site de Transistor, soit en chair et en os dans le bunker de l'ENS Dum. Vous verrez, la guerre va être super sexy et super décalée. Je vous dis pas les virgules qu'on a sélectionnées quand je pense aux gens importants qui vont venir. Voilà. Oui, parce qu'il y aura pas que nous, mais des conférences, des émissions politiques et musicales et culturelles, et aussi moi pour la météo de la matinale, ça va pas être triste. Enfin bref, fini le pacifisme, et pour faire la liaison, une zone grise entre militarisme et antimilitarisme, l'engagement dans la résistance. En excipit, ce cœur qui a hissé la guerre, de Robert Desnos, auquel Willem prête sa voix. Et avant, teaser sonore de la JDR et flashback pour ceux qui ont participé à la soirée Art Total, la playlist numéro 2 d'Ondes Sonores, reproduite avec la gracieuse permission de Lola, spécial Général de Gaulle. Les transhistoriens parlent aux transhistoriens.
Écoutez bien, écoutez bien. Les Français parlent aux Français. L'heure de l'action a sonné. Les Français parlent aux Français. Les Français parlent aux Français. Ici, Londres. L'heure de l'action a sonné.
Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises, et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté, au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit.